vivrons-nous demain ? Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais reprendre le sujet de la semaine dernière qui était sur l'isolation des bâtiments. Un problème technique, spécifique, mais qui a pris une dimension, on peut dire, politique et j'avais dit par dérision, un peu religieuse. Donc j'ai eu des réactions par rapport à cette émission sur ce sujet et je pensais qu'il était intéressant aujourd'hui de préciser certains points et de développer, surtout qu'il y a eu des articles dans la presse sur le sujet, vous en doutez bien, qui, comme il y en a assez souvent, c'était intéressant de les commenter. Alors, on entend un chiffre qui est de 41%. Alors, des émissions de gaz à effet de serre ou l'énergie consommée, on ne sait jamais très bien parce que c'est toujours, les deux sont associés entre le problème du réchauffement climatique, le problème de la consommation énergétique et la fin des énergies fossiles qui doivent être remplacées par le renouvelable. Tous ces problèmes sont intriqués, donc on ne sait jamais très bien. Enfin, il y a toujours des chiffres, vous aurez remarqué, 41%, c'est jamais 40, ça fait très sérieux d'avoir un pourcentage avec une décimale. Alors, le 41% des bâtiments qui sont coupables, effectivement, avec les professions inhérentes qui sont les architectes, les ingénieurs, les entreprises du BTP. Bon, c'est une responsabilité extraordinaire, ça fait près de la moitié de consommation énergétique, en tout cas, si on ne parle pas de CO2. Et je voulais remettre en question et poser la question d'abord sur l'origine de ces chiffres. Il y a énormément de chiffres qui circulent aujourd'hui, qui sont repris par les journaux, que l'on voit sur les réseaux, et qui sont repris, et je vous l'avais dit la semaine dernière, aussi par les responsables politiques, ce qui est un peu plus embêtant parce qu'on ignore quelle est la source, et on sait que aujourd'hui, dans l'ère des fake news, c'est très facile de diffuser des chiffres qui deviennent après, pour beaucoup de gens, des réalités. Alors, dans l'histoire des 41% du bâtiment, on pourrait quand même se poser une question de cette unicité des bâtiments. Existe-t-elle ? Est-ce qu'il s'agit des logements ? Parce qu'on parle du bâtiment, puis on passe immédiatement au logement. Mais le logement ne représente qu'une faible partie. On a d'une part, dans des pays comme le nôtre, un patrimoine qui est très important. Rappelons-nous, pour mémoire, il y a 40 000 églises, il y a autant 40 000 châteaux sur toute la France. Ça fait des grandes surfaces, des grands volumes de bâtiments, et sans compter, bien sûr, tous les bâtiments publics, tous les bâtiments modernes qui ne sont pas des logements, qui vont être affectés à toutes les activités, mais ne serait-ce que par exemple les bâtiments d'entrepôt. Un bâtiment d'entrepôt, la plupart du temps, ne servent que dans la journée, ne sont pas chauffés, et on a du mal à pouvoir assimiler et à donner ce chiffre. En plus de ça, donc, cette comptabilité me semble périlleuse et on ne voit pas comment on peut calculer un chiffre avec surtout un degré de précision aussi important. Mais posons-nous une question un peu plus philosophique, existentielle, sur le bâtiment. Les bâtiments consomment. Mais non, les bâtiments ne consomment pas. Ce sont les habitants qui sont dans les bâtiments. Si vous avez une usine, par exemple, de robot qui va fonctionner 24 heures sur 24 avec des machines-outils qui sont aujourd'hui ne sont plus à la vapeur, ne sont plus au fioul, mais sont uniquement à l'électricité, vous avez une consommation énorme. Mais ce n'est pas le bâtiment qui consomme, c'est les machines-outils et l'éclairage et tout ce qui va avec. Bon, il en est de même, par exemple, je vous en avais parlé, du logement, où on a du mal à voir dans le logement, qui est la partie chauffage, puisqu'en fait, ça va être le sujet de l'émission, par rapport à ce qui va être l'éclairage, mais aussi, mais surtout, les appareils électroménagers, qui aujourd'hui sont à peu près généralisés dans toutes les familles, où on a le sèche-linge, la machine à laver, le lave-vaisselle, le four, les plaques, et puis, sans parler des piscines, des tondeuses à gazon électrique, tout matériel de bricolage dans une maison qui va être branché sur l'électricité, qui fait que la part du chauffage sera minorée par rapport à la consommation globale. Donc, on ne sait pas soi-même quelle est la part, quand on reçoit la facture d'électricité, si on est chauffé à l'électricité, quelle est la part de toutes ces dépenses. Et on n'a pas la ventilation. On n'a pas la ventilation, mais EDF ne l'a pas non plus, et personne ne l'a. Donc, je répète mon interrogation sur ces chiffres qui ne tiennent pas compte, un, de la disparité des bâtiments et qui fait porter par une sorte de reptation habile du bâtiment en général et sur le logement en particulier, où on passe du bâtiment avec les logements qui ne représentent qu'une faible partie des mètres carrés bâtis. On peut dire que même ça représente bien moins de la moitié des mètres carrés bâtis. Donc, c'est une vraie question, et je répète ce que je disais tout à l'heure, les bâtiments ne consomment rien. Un bâtiment qui n'est pas habité, même une maison de vacances qui ne va fonctionner que l'été, n'a rien à voir avec une habitation permanente. Mais les bâtiments, un bâtiment d'entrepôt qui stocke, où il n'y a pas d'activité, il ne consomme quasiment rien. Et un bâtiment qui n'est pas occupé, il ne consomme rien du tout. Donc, les bâtiments ne consomment pas, ce sont les habitants, suivant leurs activités, qui consomment. Et ça change toute la donnée. Donc, vous voyez, le raisonnement qui fait porter cette responsabilité sur le bâtiment, et en disant qu'il faut modifier les bâtiments pour empêcher cela. Donc, comme de toute la consommation énergétique, on ne va prendre que le chauffage, on a une sorte de névrose obsessionnelle qui a gagné notre pays, mais tous les pays, la plupart des pays développés, justement sur ce problème-là. Alors, il est paru dans la semaine dernière, dans le journal Le Monde, un article qui parle de l'Allemagne. Alors, on ne parle pas de chez nous, mais qui parle de l'Allemagne et qui est tout à fait... Alors, je ne peux pas dire inquiétant, mais en tout cas, révélateur d'une part d'un pays qui n'hésite pas à mettre les problèmes sur la table. Je pense que nous ne sommes pas dans ce cas. Et cet article dit qu'en fait, la rénovation de la consommation énergétique est un échec complet depuis 10 ans en Allemagne. Ça veut dire que, et l'article dans Le Monde du 4 septembre 2020 développe ce point de vue en disant que depuis 10 ans, les Allemands ont dépensé la somme coquette de 340 milliards d'euros pour investir dans la rénovation des bâtiments et qu'en fait, bien, la consommation énergétique n'a pas baissé. Et donc, ce qui corroborait mon propos, mais alors là, effectivement, dans l'article, on dit que c'est le fait, par exemple, que les gens se sont habitués à du fait qu'ils ont leur maison bien isolée, à passer de 22 degrés à 22 degrés, et que justement ce fait qu'on s'habitue à avoir des maisons très chauffées, ça met en péril la facture. Bon, ça me paraît une argumentation tout à fait fausse, mais bon, en tout cas, la conclusion est l'échec, c'est-à-dire que on a mis 340 milliards et il n'y a pas de baisse sur les 10 ans. Donc c'est ce que je pensais et ça ne fait que corroborer. Et il serait peut-être intéressant de voir notre pays, quel est aussi le bilan de ces politiques. Alors, à l'opposé de cela, dans le Libération de hier, il y avait un article justement sur le même sujet de l'investissement vert et l'investissement énergétique, paré de toutes les vertus et de la morale de notre époque. Et il y avait un titre qui m'a frappé. C'était dans le Cantal, la région bien sûr, dans le Cantal, le département plutôt, dans le Cantal, le fléau de la précarité énergétique. Entendez bien ça là, la précarité énergétique. Donc, la double page était illustrée par deux maisons anciennes et le reporter de Libération était parti dans ces terres lointaines pour les Parisiens et il était allé interviewer, je ne sais pas, les indigènes pour voir la manière dont ils vivaient, la manière dont ils résolvaient ces problèmes, parce que le département il y avait le fléau de la précarité énergétique. Alors, après le Covid, là, on est passé au fléau de la précarité énergétique. Alors, l'article était assez curieux, parce qu'il faisait un mélange de chaudière au fioul, et puis qui était remplacé par une chaudière à granulés, des vieux radiateurs électriques grille-pain. On ne voit pas très bien comment les deux étaient chauffés la maison en même temps. Et il parlait d'une maison de 70 mètres carrés et d'une dépense de, tenez-vous bien, 30 000 euros pour isoler la maison. Et l'article, justement, posait ces problèmes, des dépenses très importantes pour des gens modestes. Bon, voilà. Donc, simplement, la somme de 30 000 euros, et surtout, le mot employé de passoire énergétique, est illustré par des maisons qui étaient des maisons du 19e siècle ou 18e siècle, ces maisons que l'on a dans nos villages, maisons, dans ce cas-là, bien massive, construite en pierre apparente et avec un toit en tuiles et, comme dans les maisons anciennes, des petites fenêtres. Donc, en fait, ce n'était pas du tout une passoire, mais plutôt une grande boîte percée avec des petits trous, la porte et quelques fenêtres. Donc, je voudrais justement revenir dans la deuxième partie du propos sur des termes un peu plus techniques, et comparer ces 30 000 euros et voir où l'argent passe, parce que c'était bien ça le propos, et en conclusion aussi, de voir s'il est sage que l'on puisse dépenser des sommes pareilles pour des résultats que les Allemands nous disent qui ne correspondent à rien, et que cette campagne nationale et ce fléau, pour reprendre le terme du journal des Libérations, est-il vraiment aussi inquiétant qu'on voudrait nous le faire croire. Une pause musicale.
So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.
L'article du Monde, qui parlait de l'Allemagne, comme je vous disais à l'instant, une des raisons qui a été invoquée pour justement le mauvais résultat de énergétique, où en fait on a vu qu'il n'y avait pas de baisse de consommation, aurait été des erreurs techniques, et notamment que les façades sud étant isolées, et moi je dis surisolées, l'effet du soleil aurait été enlevé du fait de l'isolation, et on n'aurait pas bénéficié de l'apport solaire, justement parce que l'immeuble était isolé. Bon, je ne suis pas un fanat de cette analyse qui me paraît quand même un peu marginale, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'un rapport officiel remet en cause des données d'experts aujourd'hui. Donc, on va continuer sur ce sujet. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans l'article de Libération, ont chiffré à 32 000 euros la rénovation énergétique d'une maison ancienne en pierre avec des petites fenêtres parce qu'on allait changer portes et fenêtres, etc. Alors, ils devaient remettre de l'isolation, toiture et les murs. Donc, pour une maison qui faisait 70 mètres carrés, ce qui me semble une surface bien faible, alors je ne sais pas si c'était vraiment la maison qui était en photo dans l'article, mais a priori, c'était une maison ancienne qui devait faire bien plus que ça. Bon, certainement le double. Mais enfin, 38 000 euros, c'est quand même une somme importante. Alors, puisqu'en fait, on était dans une espèce de misérabilisme des populations de la France périphérique, et effectivement, des sommes de 30 000 euros, ben, il faut avoir quand même faire baisser la facture énergétique d'une manière considérable et se poser la question de quel intérêt les gens ont à payer une somme pareille pour un bénéfice escompté qui est assez secondaire, surtout quand il s'agit de villages de campagne où il y a des cheminées, il y a du bois d'abondance. Bon, tout ça me semble un peu surprenant et une vision très parisienne de la chose. Mais enfin, puisqu'il s'agit de maisons individuelles que l'on isole, je pense que on applique des normes que l'on applique à des bâtiments modernes, des bâtiments en construction aujourd'hui, ou à construire, et on veut appliquer cela à des bâtiments anciens. Déjà, on ne tient pas compte des différents caractères de ces bâtiments, et notamment, je vous en avais parlé, de l'inertie, qui est un apport favorable, qui maintient la température, je l'avais parlé la semaine dernière, et qui n'est pas prise en compte dans ces calculs, c'est-à-dire l'épaisseur des murs, et qui donne un confort d'été, et pas un confort d'hiver, mais en tout cas permet, avec un chauffage alternatif, d'avoir, de lisser la température d'une manière confortable. Alors, petit problème de technique simple. Rappelons-nous que le principe de la chaleur, c'est que la chaleur monte. On n'est pas dans des passoires thermiques, ça veut dire la passoire, elle serait percée de partout. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a les toitures, effectivement, qui ne sont pas isolées dans l'ancien temps, traditionnellement. On avait effectivement le plancher haut dans lequel il pouvait y avoir, c'est selon des carreaux avec de la terre ou des fans de maïs. Enfin, il y avait des isolations plus ou moins réussies dans les temps anciens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des isolations, par exemple, sur un plancher au-dessus de la maison, et si on ne veut pas isoler le comble pour s'en servir, qui sont très faciles à poser. Bon, si la maison fait 70 mètres carrés, par exemple, de surface au sol avec un étage, ce qui était à peu près peut-être la maison de l'image, on peut considérer que 10 euros le mètre carré d'une isolation de laine de verre ou d'isolant similaire, on n'est pas du tout dans les sommes de 38 000 euros. Alors, effectivement, sur une maison ancienne, si on fait un doublage de cloisons sur des murs qui ne sont pas droits, avec tout ce que ça comporte comme complexité pour un bénéfice qui, à mon avis, ne sert à rien, et qui va rétrécir la surface, et surtout le problème des changements de fenêtres, qui, à mon sens, est une aberration, et l'aberration à plusieurs niveaux. D'une part, c'est une aberration visuelle, parce que souvent, les fenêtres des maisons anciennes ont de belles qualités de proportion, elles sont très bien faites par les artisans, elles sont souvent en quart de chaîne, très solides, et elles ne demandent que, par exemple, un changement de vitrage épais, ou un colmatage de la fenêtre dans son raccord au mur. et qui sont des choses de bricolage tout à fait simple, sachant qu'une fenêtre, on l'ouvre et ce n'est pas la peine de prendre des données où on ne ferme pas du tout la maison. Et le fait que justement on puisse ouvrir et fermer les portes et fenêtres, on a de l'air qui passe et on a les enfants, il y a les chiens, les chats, etc. Donc une maison, c'est fait pour vivre, comme nous l'avions dit. Alors, je reviens à mon principe technique, la chaleur monte, tout le monde sait ça, et donc la chaleur, quand le toit n'est pas isolé, ben, la chaleur monte dans le toit, elle crée une zone froide en bas et une zone chaude en partie haute, ce qui est très inconfortable. Si la partie haute du plafond est isolée, la chaleur fait une convection, redescend et les murs étant plus froids, on a l'air qui tourne en permanence, c'est-à-dire qui fait une convection, et justement cet effet de convection et qui brasse l'air à l'intérieur de la pièce lentement bien sûr, est un effet de confort puisque l'air est réparti et on n'a pas froid aux pieds et quand on se lève, on sent la même température si par exemple on était sur un canapé. Donc ce sont des éléments de détail, mais qui ont leur importance, parce que justement, on se rend compte que ces normes appliquées d'une manière aveugle et aujourd'hui, comme je vous disais, d'une manière peut-être religieuse et non pas adaptées au cas par cas, peuvent endetter des ménages, et notamment par les changements de fenêtres qui sont très très laids, pour des fenêtres en plastique qui souvent, au final, n'ont aucune efficacité sur le plan de faire tomber le prix de la facture de chauffage. Alors, c'est une question essentielle. Alors, quand on vous dit, par exemple, que tout le bâtiment va profiter de ces campagnes vertes pour l'énergie, le bâtiment n'en profite pas. Il y a juste quelques entreprises spécialisées, c'est des industriels qui en profitent, des poseurs de fenêtres, mais le gros du bâtiment, entre les concepteurs et tout l'artisanat, je vous avais dit ça la semaine dernière, bah, évidemment, n'en profite pas. Donc, on se trouve sur un problème qui est un problème social, un problème où on demande à des familles souvent modestes, on parlait là justement de cette France dite périphérique de nos villages et de nos campagnes, et qui se croient obligées, pour des résultats bien faibles, de ne pas d'être obligées de faire des travaux dont ils n'ont pas besoin. Alors vous me direz, tout ça est bien beau, mais il faut rien faire, il faut ne pas améliorer, ne pas profiter du confort, des progrès techniques. Ben, écoutez, il y a un mot qui est employé aujourd'hui, qui est le mot « durable ». Et ce mot « durable » n'est pas employé dans son bon sens. Durable, c'est ce qui dure. Et aujourd'hui, avec le développement durable et les améliorations durables, il ne s'agit pas de durer, il s'agit d'être conforme à un catéchisme écologique, notamment de celui dont on a parlé aujourd'hui. Alors, si on pensait justement beaucoup plus à ce qu'était la préoccupation ancienne, en plus de nos civilisations, c'est-à-dire de faire des bâtiments qui vont durer, des bâtiments qui ne demandent pas d'entretien, donc l'investissement qui est fait, ben, il n'est pas remis en cause, et j'ai parlé déjà du problème de ces bâtiments qui, grâce l'isolation par l'extérieur, sont obligés d'être rénovés au bout de 5 ou 6 ans, c'était le contraire avant, et il serait peut-être bon de revenir à ces préceptes ancien, où on pense la durée sur le temps, donc faible rénovation, peu d'entretien au niveau du propriétaire, du locataire, de la copropriété, de l'organisme bailleur, que sais-je, et également d'avoir des bâtiments qui ne changent pas dans l'espace public, donc l'apport collectif du public et visuel. Et puis, il y a aussi la transmission de bâtiments qui vont faire patrimoine, qui vont être transmis par héritage et qui feront qu'on a une constante sans avoir des frais non prévus qui vont gréver l'investissement des gens. Donc, c'est tout un ensemble de réflexions et on voit qu'aujourd'hui, cette partie justement de patrimonial et de la durabilité, de la pérennité, dirons-nous, n'est pas prise en compte. Et on reviendra d'autres fois sur ce problème qui devrait nous paraître central dans nos civilisations. C'était Où vivrons-nous demain? Merci à Yanis qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?